Bonsoir à tous. Le sénateur Jean-Pierre Bemba est sorti de la prison de la CPI depuis hier mardi et a aussitôt retrouvé sa famille en Belgique. Il bénéficie d'une liberté provisoire sous condition. L'ancien vice-président congolais doit toutefois attendre le verdict en appel dans la seconde affaire qui est celle de subornation des témoins, dans lequel il a été condamné un an de prison en première instance. Quelle analyse faire de cette décision de la CPI? C'est la question au débat ce soir. Et pour en parler, nous serons avec Richard Bondo, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, président de l'ONG Avocats sans frontières. Il est aussi conseil près de la CPI et du tribunal pour le Liban. Richard Bondo, bonsoir.
Bonsoir.
Alphonse Maïndo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur, docteur en sciences politiques de l'université de Sorbonne à Paris 1 et enseignant à l'université de Kisangani. Et enfin, dans ces studios de Radio Okapi, un autre professeur, Boniface Kabisa, criminologue. Professeur Boniface Kabisa, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Et son feuilleton qui continue après son acquittement vendredi dernier, le sénateur Jean-Pierre Bemba est sorti de la prison depuis hier mardi et il bénéficie d'une liberté provisoire sous condition. L'ancien vice-président congolais doit toutefois attendre le verdict en appel dans la seconde affaire qui est celle de subornation des témoins dans lequel il est condamné une année de prison en première instance. Mais même s'il reste encore sept autres affaires à affronter pour Jean-Pierre Bemba, son parti, le MLC, parle de libération tout court. On écoute ici un des cadres de ce parti, Alexis Lenga.
Quand les gens parlent de liberté provisoire, nous pensons bien que c'est par rapport au deuxième dossier et c'est sur le plan purement procédural. Quant au fond du dossier, pour nous, nous considérons que c'est une libération définitive parce que nous considérons que le 4 juillet, lorsque les juges vont plancher sur les peines pour le deuxième dossier, c'est-à-dire le dossier de subornation des témoins, parce que je dois rappeler que les juges d'appel, ils avaient renvoyé cette affaire pour un réexamen. La main en ce qui concerne le peine. Mais par rapport au temps déjà passé, par rapport au comportement, par rapport à l'observance de toutes les procédures qui se sont passées et que la première affaire est purement rejetée, c'est-à-dire les charges sont tombées, ces juges-là ne doivent pas se contredire. Donc nous considérons que c'est sa sortie définitive.
L'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, libre donc, et l'idée d'une réparation pour 10 années de détention par la CPI est évoquée par-ci par-là dans les conversations. Même si dédouanement y avait, combien peut-il s'élever? Tentative d'évaluation avec Aimé Kilolo, avocat et expert en droit international, mais également ancien avocat du même Jean-Pierre Bemba.
À partir du moment où Jean-Pierre Bemba a passé 10 années en prison et qu'il est déclaré à l'issue de cette procédure innocent, qu'il est acquitté de toutes les charges, eh bien, il a le droit de demander une réparation pour le préjudice subi. C'est d'ailleurs le droit connu de tous les étudiants dans les facultés de droit. Tout fait qui cause à autrui un dommage oblige la personne par laquelle le dommage est arrivé à le réparer. Et donc, à partir du moment où l'on peut procéder à une évaluation de l'étendue du préjudice subi, eh bien, il appartiendra à la Cour pénale internationale de l'indemniser. Et on peut ici imaginer d'emblée un dommage qui pourrait se chiffrer à plus de 100 millions d'euros, parce que le discrédit qu'il l'a subi, la privation de liberté qui lui a été infligée l'ont empêché aussi de pouvoir prospérer économiquement dans ses affaires.
Un dossier réalisé par Pelé Kipelamondo. Richard Bondo, nous commençons ce débat par vous, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, président de l'ONG Avocats sans frontières, mais également conseil près la CPI et le tribunal pour le Liban. Comment, selon vous, comprendre cette libération provisoire?
La Cour, merci d'abord de la question et de l'invitation.
Je voudrais simplement préciser que cette décision de la liberté provisoire de l'honorable sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, notre compatriote, est licite. Pourquoi ? Parce que on ne pouvait pas, sur l'action principale, le procès principal des crimes en violation des articles 5 à 8 de singulièrement 7 à 8 du traité de Rome, crime de guerre, crime contre l'humanité, définitivement acquitté, la Cour ne pouvait pas, n'est pas ordonné la mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba sur le dossier de la subornation des témoins, dossier pour lequel il n'a été condamné qu'à un an, et il est en appel. Et même si ça a été confirmé en appel, il reste maintenant la fixation de la peine, ce qu'on appelle la sentence. Et pour cela, la Cour a estimé que Jean-Pierre Bemba, étant acquitté et ayant demandé à travers le ministère de ses conseils sa mise en liberté provisoire, c'est à bon droit de lui accorder, parce que ce qu'il a subi pendant 10 ans, et c'est une erreur judiciaire, par ce qu'on appelle erreur judiciaire, et une erreur judiciaire qui devra être réparée, je crois, sur le parcours de l'émission, nous pourrons revenir sur la réparation. Mais pour la question que vous venez de me poser, la mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba est conforme aux règles de procédure devant la Cour pénale internationale, surtout lorsque l'on sait que sur le dossier principal, il a été définitivement acquitté.
Mais est-ce que, Richard Bondo, est-ce que la logique n'aurait pas aussi un peu conseillé qu'on vide d'abord entièrement toute la procédure et qu'on relâche, le cas échéant, le concerné une bonne fois pour toutes?
Non, le problème tel est-il, c'est que dans l'affaire de Jean-Pierre Bemba, au lieu que l'affaire de subornation des témoins soit un incident de procédure dans l'affaire principale, auquel cas le juge d'appel aurait vidé en un seul arrêt définitif cette affaire-là, la Cour avait scindé deux dossiers. Le principal, qui était pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et le second, qui est distinct du premier, bien entendu avec pose le premier dossier, parce que les témoins supposés subornés étaient dans le dossier des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais il y a deux dossiers distincts, le second dossier d'atteinte à l'administration de la justice n'est pas un incident de procédure tel que la Cour l'avait enrôlé comme un dossier tout à fait distinct du premier, nonobstant la connexité qu'il y avait.
Alors, parmi les conditions, il y a notamment une imposition de la résidence où il doit pour le moment se cantonner, et d'autres contraintes. Comment comprendre ces nombreuses contraintes alors que, justement, comme je vous posais la question tout à l'heure, puisque les deux affaires, le verdict des deux affaires ne sont pas éloignés l'un de l'autre, pourquoi n'a-t-on pas évacué carrément le tout et afin de donner un verdict définitif et éviter les contraintes?
C'est parce que ce n'était pas la même chambre. Il y a deux chambres distinctes qui jugent les deux affaires, où on ne les avait pas jointes, et c'est comme ça qu'une chambre, la chambre de l'atteinte à l'administration de la justice, a estimé qu'elle pouvait accorder la liberté provisoire à Jean-Pierre Bemba sous certaines conditions. Et ça, c'est parce que une chambre a évacué par un acquittement définitif l'affaire des crimes contre l'humanité et crimes de guerre, et une autre, distincte de celle qui jugeait ces crimes internationaux, a estimé que pour l'atteinte à l'administration de la justice, comme on n'a pas encore fixé la peine, il faut, dans l'entretemps, lui accorder, parce que c'était un non-sens de le garder alors qu'il venait d'être acquitté des crimes les plus graves, à savoir le crime de guerre et crime contre l'humanité. Mais pour la subordination des témoins, qu'il y ait une affaire bénigne, parce que à l'article 70 du traité de Rome, c'est-à-dire le statut de la Cour pénale internationale, au paragraphe 3, on indique que le maximum de peine est de 5 ans. C'est-à-dire, ça peut aller, comme il a été condamné à 1 an, et confirmé au degré d'appel, il ne reste qu'à fixer, le verdict établissant sa culpabilité dans l'atteinte à l'administration de la justice, confirmé au degré d'appel. Il faut maintenant que cette chambre d'appel, en cette affaire-là, fixe le taux de peine.
Merci.
Et pour ça, on ne pouvait pas garder Jean-Pierre en attendant, parce que ça prendra peut-être encore un mois ou deux, autant lui accorder sa liberté.
Merci.
Comme il venait d'être acquitté définitivement.
Merci, maître Richard Bondo. Alphonse Maindo, professeur, docteur en sciences politiques de l'université de Sorbonne, Paris 1, et enseignant à l'université de Kisangani. Pourquoi libérer provisoirement une personne avec plusieurs contraintes alors que le verdict de ces deux affaires qui le concernent sont fixés à des délais très rapprochés?
Je pense, à part les... Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, si vous voulez, saluer mes co-débatteurs, Richard Bondo et professeur Boniface Kadissa, ainsi que tous les auditeurs de Radio Okapi. Alors, vous savez, moi, à part ce que vient de dire maître Bondo, je pense qu'il y a un autre élément important à ajouter, c'est que les co-accusés de Jean-Pierre Bemba dans cette affaire de subornation de témoins sont en liberté. Donc, voyez-vous, on ne pouvait pas les garder... lui en détention pour cette affaire de subornation de témoins, à partir du moment où les autres co-accusés sont en liberté, donc on n'avait pas le droit de faire injuste, si vous voulez, de le garder en prison. Donc il fallait le libérer, d'autant plus que l'affaire, le principal, il a été acquitté, donc il devait être libéré immédiatement à l'issue du verdict.
Alors qu'on...
Moi, je ne voudrais pas rester, si vous voulez.
Allez-y.
Oui. Alors moi, je ne voudrais pas rester, si vous voulez, sur le plan tout à fait uniquement juridique. Moi, je suis politique, je voudrais plutôt aller un peu plus loin dans l'analyse politique et stratégique de cette libération, parce qu'on peut se demander, s'interroger sur les taillis de sa libération, qui me semble ne pas être anodine, puisque cette libération intervient à l'issue, disons, dans un contexte assez particulier. Il y a d'abord eu toutes ces réunions des chefs d'État de la région, et puis un chassé-croisé avec des sorties médiatiques de certains leaders africains, notamment du président de l'Union africaine, président du Rwanda, président de la commission de sécurité de la SADC, et président d'Angola, à Paris et à Bruxelles, et puis du président ougandais, et même un tweet de Jacques Attali qui critiquait la gouvernance et qui faisait des éloges disons des éloges aux compétences et qualités du prof Mukwege. On a eu aussi une lettre de Herman Cohen à la CPI pour demander la libération de Jean-Pierre Bemba. Et une autre, on a même eu une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne avec la crise congolaise comme un point important lors du jour. Donc on voit tous ces contextes-là qui poussent un certain nombre d'observateurs à y voir, si vous voulez, un début d'exécution d'un fameux plan régional de sortie de crise de la RDC dont avait parlé le président français Macron en recevant le président de l'Union africaine et celui de la commission de sécurité de la SADC. Donc, on peut bien y voir aussi, si vous voulez, une dimension politique, hein, puisqu'on est à 6 mois des élections et les préparatifs n'avancent pas. Il fallait sortir une grosse artillerie, hein, si vous voulez, une arme de dissuasion, une espèce de bombe atomique, voyez-vous, pour montrer qu'on a en fait d'autres armes, d'autres cartes qu'on pourrait jouer pour forcer un peu, si vous voulez, la main du régime, hein, à libérer l'espace et à organiser des élections. Donc on pourrait dire que cette libération, du point de vue politique, s'inscrit dans la droite lignée logique des pressions régionales et internationales qui visent à accélérer la fin du régime en place. Donc ça, c'est aussi un point de vue qui est possible, oui.
Professeur Alphonse Maindo, puisque vous parlez des implications politiques, parmi les éléments, les faits qui se sont poursuivis. Il y a aussi la présence de Madame Ben Souda en République démocratique du Congo. Parmi les faits que vous avez cités, vous avez manqué de mentionner celui-là. Alors, est-ce que il faut voir dans tout cela un complot qui avait déjà été ourdi à l'époque contre Jean-Pierre Bemba et dont l'objectif était de faciliter l'existence du régime actuel?
À mon avis, on ne serait pas très loin de là, puisque comment voulez-vous que les gens ne puissent pas imaginer qu'il y ait eu un complot à l'époque pour pouvoir neutraliser un adversaire politique, pour pouvoir neutraliser un homme politique qui gênait en ce moment-là les intérêts stratégiques de certaines puissances qui comptent beaucoup. Et cette affaire, à mon avis, ça nous rappelle peut-être brutalement d'ailleurs que la RDC n'est pas isolée hein, dans le monde et que on est face à des jeux d'intérêts stratégiques des acteurs nationaux, régionaux et globaux sur ce que, pour paraphraser Zbigniew Brzezinski, hein, les grands sociétés congolais, ou François Nord qui considérait que l'Afrique c'est comme un pistolet dont la gâchette trouve au Congo. On ne peut pas laisser, si vous voulez, cette gâchette se déclencher au risque de replonger toute la région encore dans une nouvelle guerre. Alors, on a investi des milliards et beaucoup de temps, aussi des milliards de dollars. On a aussi perdu des hommes pour stabiliser la RDC. Et je pense que les puissances qui comptent ne semblent pas prêtes à laisser encore une fois ces géants au pied d'argile, hein, replonger à nouveau totalement dans les chaos et dans les ténèbres. C'est probablement pour ça qu'ils ont ressorti en ce moment, si vous voulez, cette carte de Jean-Pierre Bemba. Et cela nous rappelle bien que les Congos, loin d'être, si vous voulez, un État totalement souverain comme on a tendance à l'entendre, et on pourrait même si Franco était vivant, je pense qu'il aurait vraisemblablement composé un chant ou certainement remixé un de ses vieux chansons, Les Tailleurs, que vous connaissez fort bien.
Hein, merci.
Qui disait que voilà, Kolo Banalobati, Monokonanganga, Mokolo Tonga, Botuli Tonga, Ogotonganani, Machine et Tigalipolele.
Merci.
On est dans cette situation. Oui.
Merci, professeur Alphonse Mahindo. On reviendra vers vous. Vous semblez éventuellement avoir d'autres détails à nous livrer. Professeur Boniface Kabisa, criminologue, j'ai souri moi-même, je vous dirai pas pourquoi, mais vous, je vous ai vu à plusieurs reprises sourire à chacune des interventions de vos deux premiers co-débatteurs. Qu'est-ce qui vous a fait sourire? Apparemment, ça concerne les auditeurs aussi.
Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je salue Richard et Alphonse qui sont au bout du fil, qui font une analyse extrêmement pertinente. Je voudrais ramener tout simplement ce qui me concerne sur le plan purement criminologique. Les Congolais, vous savez, nous n'avons pas conscience de ce que nous sommes. Nous devons savoir à l'origine que lorsque ces anarchistes occidentaux se sont partagés l'Afrique comme si c'était un fruit, le Congo n'a pas été donné à quelqu'un. On l'a laissé comme l'espace international, et c'est comme ça qu'on l'a appelé État indépendant du Congo. Et donc, Léopold II est venu ici, c'est tout simplement comme un gérant. Et d'ailleurs, il a dû convaincre les Bismarck et consorts pour dire, écoutez, donnez-moi ça, ouais, ça sera l'espace libre, une zone franche, où chacun viendra prendre et partira sans payer des taxes. Et lorsque un enfant naît, on lui donne un nom, même s'il l'échange au cours de sa vie, ce nom-là reste dans les archives. Alors, lorsque nous ignorons l'origine de notre État dans la conduite des affaires publiques, nous arrivons aux conclusions que nous sommes en train de voir actuellement. La justice est une institution, la première institution que l'homme a créée, parce que très souvent les gens ne savent pas que l'État est une est une construction humaine. C'est pas une construction de Dieu. Et l'homme, à la base, c'est la peur de s'auto-exterminer qui l'a conduit à créer une personne qui va être l'arbitre dans la violence de l'homme contre l'homme, comme disait, je ne sais pas moi, Thomas Hobbes, Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Et donc, chez nous, on a oublié ces choses-là. On se conduit les deux paramètres. On se conduit comme des inconscients. Et aujourd'hui, nous voyons que les émotions qu'on a mis dans le jugement de l'affaire de Jean-Pierre Bemba, ces émotions se sont retournées. Qu'il y ait un complot ou pas, il fallait lui donner les arguments de ce complot. Lorsque, dans un jugement, vous voyez qu'il y a eu les massacres des individus, certes, et on va prendre Jean-Pierre Bemba. C'est pas ma tasse de thé, Jean-Pierre Bemba. Mais comme scientifique, je m'éloigne de mes émotions.
Vous analysez les faits.
On prend Jean-Pierre Bemba, ok. On ne prend pas celui qui l'a appelé
au secours.
Au secours. Et celui-là était un gouvernement légal. Alors, on continue. On ne prend personne dans les dossiers, même pas les commandants que Jean-Pierre Bemba avait envoyé là-bas. On prend que lui. Cet acharnement émotionnel est contraire à la justice. Vous savez, je vais donner l'exemple de un procès que j'ai vu en Belgique, qu'on appelait le procès du trou. Et lorsque tous les juges d'instruction pataugeaient, on a trouvé un juge qu'on appelait Connerot, qui lui est entré dans le vif du sujet, il a découvert les autres enfants qui étaient cachés, etc., etc., etc. Toute la Belgique a fait confiance à ce juge, qui va commettre une erreur d'aller dans une soirée de spaghetti, on a appelé ça l'arrêt spaghetti, pour les victimes, on a fait une soirée par un ONG pour les victimes de Ditrou. Malheureusement, ils ont invité les juges. Eh bien, ces juges a été dessaisi par la Cour de cassation parce que il s'est mis avec les victimes. Or, les victimes étaient une partie au procès. Alors, pourquoi je cite cet exemple? C'est parce que toute la Belgique, moi y compris, on a marché. Mais qui je vois devant le rang, le premier rang? Madame Nikendal, je cite son nom, la procureure générale, celle qui a dessaisi les juges. Elle aussi était contre son propre arrêt. Je ne sais pas si vous comprenez l'exercice.
Allez-y directement à la conclusion, vous qui êtes
la conclusion, c'est que l'émotion n'est pas justice. La justice, ce sont des faits.
Nous allons revenir à vous tout à l'heure, Boniface Kabissa. Le temps de donner la parole à nos auditeurs. Et le premier auditeur exprime une réflexion que nous souhaitons partager avec Richard Bondo.
Je suis Namedia de Pascal à partir de Bukavu au Sud Kivu. À mon avis, je pense que la CPI est en train de distraire l'opinion, mais tout a été déjà réglé car ce procès semble avoir été plus politique que juridique. Toutefois, la libération de Jean-Pierre Bemba est une bonne chose pour l'opposition congolaise et pour le peuple, car il va jouer un rôle très important à côté de ses pairs et combattants du changement, surtout en cette période préélectorale où le peuple ne jure et passe l'alternance à travers les élections générales.
Alors, Richard Bondo, vous n'avez pas encore eu l'occasion de réagir par rapport à ces affirmations de complot et d'action politique. Que répondez-vous?
Merci beaucoup. Je crois que le professeur Mayindo et même Boniface
est avec vous au studio.
Kabissa?
Oui, Kabissa Boniface, le criminologue. Je crois que le complot, c'est, ça peut être un élément de notre jugeote en tant qu'humain, mais ici, c'est le dossier qui s'est défendu. Le dossier s'est défendu au simple motif que la condamnation de Jean-Pierre Bemba devant le premier juge n'a pas convaincu le juge d'appel. Les juges d'appel ont épinglé des erreurs et des éléments qui pouvaient fonder nécessairement soit la culpabilité, soit l'innocence de Jean-Pierre Bemba, mais dont la première chambre, dont la première instance n'avait pas fait état, avait négligé. Et c'est pour cela que pour des juges de second degré, c'est-à-dire des juges qui doivent réformer la décision attaquée, soit en aggravant, la sanction, soit en acquittant purement et simplement Jean-Pierre Bemba, ont estimé que les vices de la saisine d'abord dans le chef du procureur et le manquement du premier juge à déceler les erreurs qui avaient entaché la procédure dans le chef du procureur, ces juges au niveau d'appel, de la chambre d'appel, ont estimé juridiquement, parce que l'argumentaire n'a rien de, ni de complot, ni de politique, l'argumentaire est assis sur le règlement de procédure et des preuves de la Cour pénale internationale et sur le statut de Rome. Et c'est pour cela qu'on est arrivé sur base des preuves, disons, des éléments du dossier, étant donné que la vérité judiciaire n'est pas une vérité immanente, pas une vérité inventée ni imaginée.
Richard Bondo,
la vérité judiciaire est une vérité puisée dans les pièces ou les éléments qui figurent au dossier. Et pour moi, je dis que c'est à bon droit que Jean-Pierre a été acquitté définitivement. Moi, je ne... Les complots, les éléments extérieurs, c'est des éléments tout à fait extérieurs au dossier.
Mais alors, est-ce que ceux qui observent aussi certains faits, faisant observer que la Cour n'a fait que argumenter avec les éléments que Jean-Pierre Bemba lui-même avait présentés dès son arrestation, qu'il était innocent, qu'il n'était pas sur place, qu'il avait été appelé par un gouvernement légal et que lui-même ne commandait pas les troupes directement, il y avait un commandant sur place. C'est les mêmes arguments que la Cour sort aujourd'hui et comme le faisait remarquer tout à l'heure le professeur Maindo, il y a toute une série de balais, de déclarations, de propos qui ont été tenus. Tout ça, est-ce que ce n'est pas trop trop près de ce verdict?
Non, ça peut être prêt. Je ne récuse pas que ça ne soit prêt du verdict. Mais le verdict, en le lisant, il n'y a aucun élément extérieur. Il n'y a que les éléments puisés dans le dossier, à savoir que Jean-Pierre Bemba n'a jamais été sur terrain à Bangui, ni en Centrafrique, et il n'était pas le commandant de ses troupes, parce que ses troupes étaient invitées et sous le commandement du chef d'état-major centrafricain. Et que même s'ils avaient un commandant du MLC, ce commandant n'a jamais été inquiété. Et c'est lui qui les avait invités. L'autre des éléments de Jean-Pierre Bemba armé, c'est feu le président Félix Patassé. Et lui, de son vivant, il est réclamé même d'aller à La Haye, d'être entendu. Le procureur Moreno n'avait jamais cédé à cet appel du président Patassé.
Merci, Richard Bondo.
Ni Bozizé, le rebelle qui est venu
attaquer Patassé, qui était venu attaquer Patassé, n'a jamais été inquiété. Il est là, libre jusqu'à ce jour.
Merci.
Alors, je crois que les juges d'appel ont réformé, c'est-à-dire ils ont corrigé l'œuvre de la première instance.
Merci Richard Bondo. Professeur Alphonse Mahindo, voici pour vous ce commentaire de Mboyo.
C'est Mboyo Kabilé depuis Kalima, dans la province du Maniema. Je suis maintenant convaincu de l'indépendance de la CPI, contrairement à ceux qui croyaient que l'appel interjecté ne devrait pas obtenir gain de cause, puisque la Cour serait politisée, oubliant qu'en procédure, l'appel statue en toute indépendance, sur base des droits, et non autre chose. Félicitations à la majorité présidentielle, qui s'est dit ne pas être concernée par une affaire d'injustice internationale, tout en précisant que Jean-Pierre Bemba peut venir poursuivre librement sa carrière politique dans le pays.
Professeur Mahindo, il y a Mboyo qui lui dit être satisfait du travail de la Cour pénale internationale.
Oui, évidemment, il a tout à fait raison de dire qu'il est satisfait parce que on ne pouvait pas comprendre qu'on puisse poursuivre un seul individu, hein, pour un dossier où il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont intervenus pour commettre les crimes qui ont été perpétrés en Centrafrique. Et malheureusement, nous pouvons aussi regretter, hein, tous les désarrois et la déception, l'immense déception des victimes de ces atrocités en Centrafrique. Il faut espérer que la Cour spéciale de Centrafrique pourra continuer ce travail pour retrouver les auteurs de ce crime et obtenir ainsi réparation pour les victimes. Alors, mais ceci dit, vous savez, moi je voudrais revenir encore sur ce que je disais tout à l'heure. Avez-vous les circonstances on peut douter de l'indépendance de cette Cour, puisque déjà même dans les statuts de la Cour pénale internationale, il est dit que la Cour est instituée pour combattre l'impunité. On ne peut pas instituer une Cour pour combattre l'impunité, ça c'est des termes politiques, ça. Voyez-vous, on institue une Cour pour rétablir la vérité, pour manifester, si vous voulez, concourir à la manifestation de la justice et de la vérité, et non pas pour combattre l'impunité. Donc on est là dans des termes militants et politiques, et qui peuvent, si vous voulez, entacher le fonctionnement même de la Cour. Bon, alors, mais aujourd'hui, là, ce qu'on voit, le retour de la libération de Jean-Pierre Bemba, qui est une bonne chose, qui est salué par un bon nombre de gens pour permettre, si vous voulez, rabattre les cartes politiques au niveau du Congo. Mais il faut pas qu'on puisse les rejouer aussi, hein, puisque comme le disait un ancien ambassadeur français, nous sommes donc nous avons là un homme qui n'est pas un démocrate. Vous, c'est ce que on voit dans les réseaux sociaux aussi. Il y a une caricature qui m'a beaucoup amusé. On disait, voilà, on leur demandait un dauphin, ils ont refusé, maintenant ils ont un requin. Et vous, donc tout ça, c'est pour remonter que c'est pas un démocrate. Donc il faut que maintenant les forces démocratiques, hein, puissent se mobiliser pour pouvoir souder leurs énergies, mettre leurs énergies ensemble, de manière à se battre pour préparer des élections véritablement transparentes, crédibles et apaisées.
Alphonse Mahindo.
Il faudra probablement. Oui.
Alphonse Mahindo, vous semblez dénoncer l'existence d'un complot contre Bemba en faveur du régime en place. Pensez-vous alors que, compensation, l'heure de Bemba soit arrivée pour jouer un rôle déterminant dans le remplacement du régime actuel?
Il me semble que ça n'a tout l'air. Hein. Ça n'a tout l'air, à moins que on ne sache pas lire véritablement les signes du temps. Comme je le disais, on voit qu'on a là un système qui était en train de s'exploser, de bloquer, et là, il sort de ça, et vous voyez que tous les états-majors politiques, y compris sécuritaires, sont agités en ce moment, et vous avez même notre homme au verbe facile qui nous a habitués à des rhétoriques communicationnelles assez animé, il s'est mué dans un éthisme assez concertant, vous déconcertant. Ça montre bien que cette arme qui est sortie là en ce moment, ça a l'effet qui était attendu, hein, pour booster tout le monde, si vous voulez, pour booster l'opposition, pour redonner un nouveau souffle à ceux qui étaient lancés. Mais ce que je voudrais encore dire ici,
Il faut donc que les forces démocratiques puissent se mettre ensemble pour pouvoir peser durablement sur la situation et éventuellement obtenir une transition citoyenne sans les politiques, parce qu'on sait que dans ce contexte actuel, les politiques ont perdu toute crédibilité aux yeux du peuple congolais.
Merci.
Et donc, il faut que, dans cet expliqué-là, les intellectuels également, nous puissions jouer notre rôle de veille sur le bien commun et de veille du peuple. Sinon, nous allons encore nous retrouver sous un nouvel autoritarisme encore plus abject ou sous une nouvelle certitude encore plus féroce.
Alphonse Maïndo, je vous remercie. Place maintenant à Robert Baomé, notre auditeur, qui fait un commentaire que nous invitons le professeur Kabisa Boniface à suivre avec nous.
Robert Baomé de Bukavu, au sud Kivu. Cette décision de la CPI est une bonne chose pour Bemba et la colite politique. À l'analyser bien, elle veut montrer que la CPI n'a plus à poursuivre Bemba, quoiqu'il bénéficie encore d'une liberté provisoire sous condition. Mais là où l'on peut continuer d'affirmer que cette décision est plus politique et judiciaire, c'est le fait qu'elle semble inique vis-à-vis des victimes centrafricaines dont le sort reste jusqu'à ce jour flou. Parce que pour que justice soit réellement bien rendue, force serait également de songer à ces dernières et de couvrir les autres criminels par rapport à ces dossiers. Bemba n'étant pas le seul criminel. Auquel cas, c'est toute la crédibilité de la CPI qui serait entamée ou remise en cause.
Boniface Kabisa, que peut être le sort des victimes dont on a parlé et qui sont qui ont été citées aussitôt dans cette affaire?
Justement, la grosse erreur de première instance, de la première chambre de la Cour pénale internationale, c'est d'avoir négligé les victimes, d'avoir mis tous ces fardeaux sur une seule personne, sur un individu, et de sorte que aujourd'hui ces victimes ne savent pas à quel chien se vouer. Normalement, du point de vue de l'organisation de cette criminalité qui s'est fait en masse, On ne peut pas comprendre qu'il n'y ait qu'un seul auteur de l'infraction, que soit-il Jean-Pierre Bemba. Et donc, la Cour, du moins, le procureur de la Cour pénale internationale a commis la plus grosse erreur en allant avec les émotions. Je reviens sur les mots. Et comme mon ami Bondo l'a dit, la justice, c'est les faits. Ce ne sont pas des émotions. Et donc, si on a récolté les données d'une façon orientée, eh bien, on a exclu certains auteurs les plus odieux qui sont là. Vous savez, l'auteur d'une infraction, comme on nous disait, comme une prière, vaut mieux se tromper sur un innocent qui s'en va que d'arrêter... un auteur qui s'en va d'arrêter un innocent. Lorsque les crimes comme ceux-là ont été commis en République centrafricaine, et une partie chez nous aussi, hein, parce qu'on oublie parfois, très souvent, qu'il y a eu des crimes odieux ici dans notre pays, et que l'exemple qui aurait dû être donné, c'était d'arrêter les auteurs, les co-auteurs, les complices et les maîtres devant les juridictions internationales, devant leurs victimes. Et si on a, et je ne sais pas, mon auditeur, il l'a très bien dit, on a politisé la recherche de l'infraction. Alors, dès que vous politisez ça, vous vous acharnez sur un individu, à ce moment-là, les résultats donnés sont ceux-ci. Je termine pour vous dire que la Cour pénale internationale n'a pas renié l'existence des crimes. La Cour pénale internationale a dit tout simplement, celle de l'appel, qu'il y a eu mal jugé.
Mais alors, que deviennent les victimes? Quel sort leur sera réservé?
Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement centrafricain doit organiser, parce que ce sont eux qui ont déposé plainte contre les gens qui sont allés causer du mal là-bas. Eh bien... ils doivent s'organiser pour réhabiliter les victimes.
Alors, Jean-Pierre Bemba va être intéressé de connaître le sort qui est le sien dans le deuxième procès sur la subornation des témoins. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut attendre comme verdict de ce procès? Et en même temps, comme mot de la fin, bien évidemment, quelle est selon vous l'avenir de Jean-Pierre Bemba une fois qu'il sera complètement sorti de cette affaire?
Je ne connais pas les dossiers, mais je pense que il y a eu concours idéal de cette infraction. La deuxième s'est commise à cause de l'existence de la première. Il y a un lien, n'est-ce pas? Alors, Jean-Pierre Bemba a fait 10 ans en prison. Il n'y aura aucune peine qu'on va condamner Jean-Pierre Bemba pour rentrer en prison. N'est-ce pas? Il a fait ses 10 ans. Alors, à moins qu'on le condamne pour 20 ans, à ce moment-là, il rentre en prison. Or, l'infraction pour laquelle il est poursuivi a la peine maximum de 5 ans.
Alors, donc, le dédommagement n'est pas obligatoire, mais pensez-vous qu'il sera quand même dédommagé automatiquement?
Qui est Jean-Pierre Bemba?
Oui, où demandera-t-il ce dédommagement?
Oh, ça, c'est lui-même qui va apprécier, même pas ses avocats. Moi, je crois que c'est lui-même qui va apprécier. Parce que il y a, et je termine par là, il y a la justice, il y a la morale, et il y a la politique.
Merci. Alphonse Mahindo, pour vous, que peut être le verdict de ce deuxième procès de subornation de témoins, et quel avenir voyez-vous pour Jean-Pierre Bemba?
À mon avis, je pense pas que le verdict de cette seconde affaire va dépasser ce qui avait été fait en première instance. Vu la tendance actuelle, la justice se confirme, à mon avis, il devrait couper au maximum 1 an qu'il avait déjà eu en première instance, et donc il serait libre immédiatement. Alors, je pense qu'il a certainement un grand avenir politique dans ce pays en ce moment, puisque nous sommes dans une phase où le pays semble, où les gens semblent vouloir que tout change, que même le diable vienne prendre les affaires, la destinée du pays en main. Et lui, justement, le fait qu'il ait été condamné et que maintenant il est acquitté, donc il est présenté comme une victime, et donc cette victimisation va être, si vous voulez, un argument de taille et qui va faire de lui un homme qui aura beaucoup de faveurs des électeurs congolais. Et donc, il a beaucoup de chance pour gagner haut la main les élections qui seraient organisées dans ce pays. S'il il participe, bien entendu. Hein. Oui. Il peut aussi se mettre en réserve la République pour d'autres échéances plus tard.
Merci, Maître Bondo. Vous êtes avocat. Est-ce que Jean-Pierre Bemba peut être dédommagé, même s'il ne réclamait rien?
Non, il ne peut pas d'office être dédommagé. C'est à sa requête, selon l'article 85, paragraphe 3 du statut de Rome, qui est en quelque sorte étayé par les règles 173, 174 et 175 du règlement de procédure et de preuve. Et à la règle 173, au paragraphe 4, il doit passer par ses conseils. Donc il doit être assisté par ses conseils dans la réclamation de la réparation. Et c'est possible. Là, ça ne rentre, ça exclut. Parce que j'ai entendu dans certains débats, on parle de l'article 75 que la Cour peut... Là, c'est pour les victimes. Ça, c'est l'indemnisation au profit en faveur des victimes. Et l'article 79 a prévu un fonds au profit des victimes. C'est uniquement pour les victimes. Les articles 75 et 79 du statut, c'est pour les victimes. Mais pour la réparation de l'accusé, suite à une erreur judiciaire comme c'est le cas aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Bemba lui-même avec ses avocats qui doivent introduire la requête, et la Cour appréciera en tenant compte de préjudice de sa situation personnelle, familiale, sociale et même professionnelle comme c'était un homme d'affaires.
Alors en 10 secondes, que deviennent les victimes?
Les victimes, c'est l'État centrafricain qui doit, avec la cour spéciale qui est installée à Bangui, essayer de regarder, parce que ce sont des crimes imprescriptibles.
Merci, héritier Sidiaka, à la technique. Alain Irung, Mimi Ngumba, Pele Kimopelamondo, m'ont aidé à préparer cette émission. Donat Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.